16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Une émission qui aujourd'hui fleurbon l'eau de Cologne. Cette eau parfumée dont nous aspergions les lettres d'amour enflammées que nous envoyons d'une main tremblante à nos dulcinées avant que l'invention des SMS ne vienne mettre fin à cette pratique désuète qu'on appelait l'amour épistolaire. Pour tenir la chandelle, le grand chambellan du love. Bonjour Stéphane Bern.
Merci Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, cet après-midi, on se plonge dans la vie intime des grands personnages de l'histoire en ouvrant leurs courriers les plus intimes. Un amour suivi à la lettre, c'est le thème d'Historiquement vôtre avec trois couples d'amoureuses épistolaires. D'abord, je vous raconte la relation entre celui que l'on surnommait le tigre, Georges Clémenceau, et Marguerite Balsensperger, de 40 ans sa cadette. Une relation de 6 ans et quelques 668 lettres échangées. Puis d'autres lettres, d'autres mots, se échangeaient entre deux plumes, pas que des plumes d'ailleurs, Virginia Woolf et Vita Sackville-West, deux femmes mariées chacune à un homme qui s'aiment dans l'Angleterre des années 20, qui n'aiment pas vraiment ça. Quant à vous Mathieu, c'est d'un couple plus contemporain que vous avez ouvert le courrier. Vous nous livrerez les passages émouvants d'une lettre datée du 15 janvier 1995, une lettre de rupture entre le rappeur légendaire Tupac.
Oui, Tupac. Vous avez un peu hésité, Stéphane. Oui, vous avez lu. Parce que c'était
Deux packs.
Deux packs. J'ai senti que Stéphane avait l'appel Deux packs. Vous avez eu un petit doute. Hein.
Oui, parce que Tupac, si vous voulez, n'est pas arrivé jusqu'à ma connaissance.
Oui, j'ai l'impression.
Mais par contre, Madonna, je connais.
Vous connaissez Madonna?
Oui, like
alors,
a virgin.
Stéphane, je sais qu'en matière de rap, vous êtes plutôt East Coast que West Coast.
Wesh, gros.
Mais Tupac était, vous en conviendrez tout de même, un grand rappeur. Il a vécu une folle idylle avec Madonna qui s'est terminée par une lettre de rupture assez émouvante, vous verrez, surtout sachant que pile un an plus tard, eh ben, il était mort.
Oh, c'est triste.
Eh oui.
Et avec nous...
Mais vous dites que ce n'était pas triste, il est mort à 25 ans, c'est très triste. Il a été assassiné. Oui.
Assassiné.
Oui, avec vous ne connaissez rien de Tupac.
Non,
ah, j'aurais dû faire le portrait alors sur l'histoire de Tupac. Bon, on verra. Je vais essayer d'adapter celle-ci.
Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. On commence par Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour,
Clémentine.
Bonjour, messieurs. Chaque année, on commémore la mort de Martin Luther King. Lui aussi, sans doute, a dû écrire beaucoup à sa maman quand il faisait ses études. Une mère qui l'a profondément influencé. Est-ce que vous saviez qu'elle est aussi morte, assassinée, la mère de Luther? Non, mais si, voilà. Bon, donc, vous voyez,
c'est la thématique du jour.
Ben non, c'est pas, mais c'est une belle histoire d'amour quand même, parce que voyez-vous, le charisme, la tragédie de Martin Luther King ont complètement effacé, écrasé le destin de sa mère. C'était pourtant beaucoup grâce à elle qu'il est devenu pasteur et militant des droits civiques.
Lui aussi, du charisme, il n'en manque pas, Stéphane, face à nous. David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour, comment ça va?
Ça va pas mal. Sauf votre thème.
Et le thème aujourd'hui, c'est qui a inventé le fabulon pour repasser ses chemises.
Il faut nous suivre. Il faut nous suivre en vidéo sur europe1.fr pour comprendre cette blague.
Tout à fait. Ma chemise n'est pas repassée. Et en plus, parce que la plupart de mes chemises sont wrinkle free, si vous voulez. C'est les chemises qui n'ont pas à se repasser, sauf celle-ci, voilà, que j'ai dû prendre ce matin un petit peu rapidement. Je vous prie de m'excuser. J'aurais pu faire sans.
Vous avez dormi avec. C'est pas possible.
Et puis même, il n'y a pas fait que dormir visiblement. Il y a eu de l'agitation dans
cette nuit. Arrêtez, je vous en prie.
C'est vrai, excusez-moi. Alors aujourd'hui, un thème, David, que chaque jour vous revenez aux origines d'une invention.
Oui.
Et aujourd'hui, probablement que vous m'avez vu en haut des escaliers, vous avez vu le sommet de mon crâne et vous avez décidé de nous parler aujourd'hui des méthodes pour ne pas perdre ses cheveux.
Tout à fait. Il y en a eu plein pendant l'histoire. Il y en a que trois qui marchent. On verra qu'il y en a deux qui marchent quelques fois et une qui marche toujours. Et je vous raconterai donc l'histoire de ces trois méthodes.
Très bien.
C'est marrant comme parfois.
Oui. On sent concerné.
Ah oui. On sent une certaine gêne.
Ah ben l'inoxidile. Le propétia.
Attention, parce que le propétia c'est mauvais pour la prostate, Stéphane.
Eh bien.
Non, c'est bon pour la prostate, c'est bon pour la prostate. Le zizi.
C'est mauvais pour ce que vous faites.
Parce que les intéressantes,
mais
vous
verrez, passer un certain âge, quand vous faites le repos du caleçon. Alors bon, c'est pas ça. Il y a une autre méthode, c'est de replanter des cheveux comme des asperges ou des champs de poireaux. Là, on va pas parler des poireaux, mais des asperges avec Olivier Pouls.
Exactement, c'est la saison. Vous préférez les blanches ou les vertes?
C'est comme les poireaux, le bout est toujours... Vert.
Stéphane, non. Olivier, on aime les blanches, on aime les verts.
C'est le contraire.
On est œcuméliques.
Et puis on les préparera et puis on ferait une bonne sauce pour aller avec.
Tout à l'heure, enfin les amis, dans cette équipe, malgré les années qui passent, les cheveux blancs qui arrivent, les poignées d'amour aussi, voire pour certains même la perspective d'un pelage préventif de la prostate qui se profile, nous restons d'éternels enfants, des enfants qui adorent jouer à ce jeu duquel on ne saurait se lasser et qui avait tant plu à Cyril Lignac qu'il a failli ne pas s'en remettre.
Bien to be alive, c'est génial ça. Bien to be alive, c'est génial ça. Ah, je trouve ça génial. Bien to be alive.
Oui, que Cyril qui nous écoute en moulant des tartelettes au chocolat se rassure, nous jouerons à Bern to be alive comme d'habitude. Ce sera vers 5h-10, mais tout de suite, découvrons notre premier amour épistolaire du jour. Stéphane nous raconte Georges Clémenceau et Marguerite Baldensperger.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
S'attabler à son secrétaire, faire glisser sa plume sur un papier en tête, parfumer sa lettre de camphre et cacheter de cire rouge sa brûlante missive, une activité quotidienne pour Stéphane, pour écrire à qui ? Ça, on ne le sait pas. Pour d'autres, on sait. En 71 paraît un livre, « Lettre à une amie », qui réunit 668 lettres qu'a envoyé l'homme politique Georges Clémenceau à une certaine Marguerite Baldensperger. C'est leur amour épistolaire que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Écoutez donc comment Georges Clémenceau, cet homme politique bourru, buté, belliqueux, que l'on surnommait le tigre, se mue en petit chaton inoffensif face à celle qui lui fait tourner la tête. « Belle madame, les hirondelles sont parties, non par crainte de l'hiver, comme le disent les rustiques, mais en vérité pour laisser plus de ciel à l'alouette chantante que vous êtes. » Les lecteurs découvrent un Clémenceau romantique, poète, bien loin de l'image du père la victoire de la Première Guerre mondiale, loin aussi de son engagement pour défendre le capitaine Dreyfus, loin encore de son combat contre l'Église, lui l'anticlérical épidermique. Car à 80 ans passés, Georges Clémenceau, le premier flic de France, retombe amoureux d'une femme, une femme de 40 ans, sa cadette, une alouette chantante donc.
Vous avez l'air de mépriser ce romantisme.
Au contraire, je trouve ça tellement touchant, voyez-vous. Nous sommes le jeudi 3 mai 1923 à 10h35 devant la porte du 8 rue Benjamin Franklin dans le 16e arrondissement de Paris. Marguerite Baldensperger a rendez-vous avec l'un de ceux qui a fait l'histoire de France, Georges Clémenceau. Marguerite est éditrice en Alsace et aimerait que l'ancien président du Conseil lui fasse l'honneur d'écrire un livre à destination de la jeunesse. Ainsi, Marguerite rencontre-t-elle, enfin, l'impressionnant Georges Clémenceau. À 82 ans, il n'a rien perdu de sa superbe. Il continue de faire de la gymnastique tous les matins, prend soin de ses cheveux et lustre sa moustache. Elle lui propose d'écrire sur la Grande Guerre. Il refuse. Sur Abraham Lincoln. Il refuse. Non, Georges Clémenceau a une autre idée. Il écrira sur le général athénien Démosthène. Marguerite est aux anges. L'ancien loup politique s'est montré aussi doux qu'un agneau. Une victoire pour cette femme qui, jusqu'alors, n'avait jamais vraiment eu l'occasion de s'accomplir. Marguerite a été élevée dans une famille bourgeoise protestante. À 21 ans, elle épouse Philippe-Jules Fernand Baldensperger, futur professeur de littérature comparée à la Sorbonne. Elle se dévoue à l'éducation de leurs 4 enfants. Elle voit peu son mari, très accaparé par son travail. Elle vit dans l'ombre de ses proches et aimerait mener ses propres projets. Un événement dramatique va l'y pousser. Marguerite rend régulièrement visite à son auteur, pas comme les autres. Lors de leur troisième entrevue, Clémenceau la questionne pour savoir de qui elle porte le deuil, ayant remarqué qu'elle ne s'habille qu'en noir. Pour la première fois, Marguerite révèle alors son secret à un inconnu. Un an auparavant, sa fille aînée, Pauline Anne, dite Annette, est retrouvée noyée. Elle aurait mis fin à ses jours par amour d'un pasteur déjà marié. Marguerite ne s'en remet pas, d'autant que la dernière fois qu'elles se sont vues, la mère et la fille se sont disputées. Bienveillant et sans doute touché par la tristesse de cette femme menue aux traits si fins, Georges Clémenceau se rapproche d'elle et prononce ce serment devenu célèbre « Mettez votre main dans la mienne, voilà. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Tel est notre pacte, embrassons-nous. » Dès lors, Marguerite et Georges entament une correspondance prolifique. 668 lettres en 6 ans, parfois 2 lettres par jour. Marguerite émet une seule condition à cet échange régulier, que Georges brûle chacun des courriers qu'elle lui envoie. Elle craint trop que leur petit secret ne soit découvert et jeté en pâture à la presse. Elle a déjà souffert des rumeurs blessantes au moment de la disparition de sa fille. Elle ne veut pas être de nouveau au cœur d'un scandale. Clémenceau accepte ses autodafés comme il les décrit. À l'inverse, Marguerite n'a jamais brûlé les courriers de son illustre correspondant. Dans ses écrits, restés secrets pendant 40 ans, Georges Clémenceau parle autant de l'avancée de son livre sur Démosthène que de la météo, de son jardin qu'il cultive à Paris, comme des travaux de sa maison en Vendée. On l'imagine déverser sa colère sur la politique française ou l'Église catholique. Il n'en est rien. En apparence, le tigre semble avoir rentré ses griffes. Les dégâts de la mer ont été assez bien réparés. Il y a des iris, des belles giroflées, des anémones. Mais progressivement, les lettres formelles de l'ancien président du Conseil laissent place à plus d'intimité. Lui à qui l'on prête durant sa vie près de 800 maîtresses semble tomber amoureux de nouveau. Pour preuve, les surnoms qu'il donne à Marguerite. « Oh, la plus dangereuse des madames, ma toute vibrante amie, oh, chérissime amie !» Sûr de son charme épistolaire, Clémenceau multiplie les métaphores et les flatteries. « Je me sens refleurir comme un vieux chardon desséché. Vous êtes en or, décidément. J'essaye de vous aimer moins, je ne peux pas. » Clémenceau succombe à Marguerite, de 40 ans plus jeune que lui. Leurs familles respectives se rencontrent. Fernand, le mari de Marguerite, s'entretient avec l'octogénaire sensible au charme de sa femme. Il accepte cette relation d'amitié intense, car il est vrai que nul ne sait si l'amour fut consommé. Clémenceau séjourne régulièrement dans la maison familiale des Baldensperger à Saint-Dié, dans les Vosges. Oncle Georges fait l'unanimité. Pourtant, ce râleur né qui a mené la vie dure aux parlementaires, à l'Église et, je cite, aux boches, ne mâche toujours pas ses mots. Dans sa bouche, Gambetta devient gros bêta. Félix Faure n'est autre qu'une pauvre cervelle bouffie de vanité bourgeoise. Pourtant, si son assurance en société ne fait aucun doute, en privé, Georges vacille. Et c'est la douce Marguerite qui va lui venir en aide. Lui qui a dirigé la France, négocié les traités de paix avec l'Allemagne, est tout chose lorsqu'il s'agit de préparer la simple venue de Marguerite. Il veut tout vérifier, de sa garde arrivée à la décoration de sa chambre. Et puis, il a une obsession, faire moins que son âge. Il passe toujours chez le coiffeur et il prévient Marguerite. En arrivant à la gare, vous verrez un vieux canasson qui fait le pur sang. Ils sont diamétralement opposés. Lui, fougueux et chevauchant les années sans retenue, elle, discrète, presque effacée. Pourtant, ils s'entendent à merveille. Il faut dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Il le sait et il lui dit « Avez-vous songé que vous avez à vivre plus d'années que je n'ai de semaines ?» Alors, lorsque Marguerite repart dans les Vosges et qu'elle ne répond pas dans l'heure, Georges rouspète. « Si vous ne m'aviez pas écrit le 26, vous me l'auriez dit le 27. » Le fait demeure que le 28, il ne m'est rien arrivé de vous. La mauvaise humeur de Clémenceau grandit alors que les années passent. Tous les sujets sont source de critiques. La Poste qui ne distribue plus le courrier le dimanche. Le gouvernement qui ne voit pas la guerre arriver avec le réarmement de l'Allemagne. Marguerite s'inquiète pour lui, pour ses problèmes respiratoires, mais pas seulement. Car la santé financière de Georges n'est pas au beau fixe non plus. L'appartement qu'il loue depuis des décennies est en passe d'être vendu. Il n'a pas d'argent de côté et donc n'a nulle part où aller. À son insu, Marguerite en informe un ami commun richissime, James Stuart Douglas, qui par admiration pour Clémenceau, rachète tout l'immeuble. Mais trop fier, l'octogénaire sermonne gentiment, toujours par lettre, sa sauveuse. « Il ne faut rien faire de ce qui me concerne sans me consulter, mon enfant. » Marguerite est soulagée. Son Georges est à l'abri jusqu'à la fin de ses jours. Le repos sera de courte durée. Il meurt à 88 ans, le 24 novembre 1929, en pleine nuit. Marguerite, elle, décède 7 ans plus tard d'un cancer du sein. Rares sont les lettres de Marguerite qui ont survécu. Je vous rappelle qu'elle avait demandé à Clémenceau de brûler chacun de ses courriers. Et pourtant, celle-ci datée de juin 1926, résume parfaitement leur relation. Comme vous êtes, avec mon sentiment maternel, le plus haut, le plus grand sentiment de ma vie et que je souffre d'une manière aiguë de tout ce qui vous touche.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Georges Clemenceau et Marguerite Baldensperger, nous sommes avec celle qui raconte leur belle histoire dans un livre, Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bonjour Nathalie Saint-Cricq, vous êtes journaliste, éditorialiste politique à France 2 et vous venez donc de publier « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage dans lequel vous faites revivre cette grande histoire de cœur, je ne vais pas dire histoire d'amour, mais histoire de cœur, entre Georges Clemenceau et Marguerite Baldensperger. Vu la réputation du tigre, on a du mal à imaginer que son cœur ait pu brûler pour quelqu'un. Qu'est-ce qui a interpellé la journaliste que vous êtes dans cette histoire? Vous attendiez à trouver un cœur aussi ardent?
Non, je ne m'y attendais pas vraiment. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en lisant une biographie très sérieuse, celle de Michel Vinocq, j'ai trouvé une page où globalement, j'apprends qu'un vieux monsieur qui aurait pu avoir envie de prendre sa retraite après s'être fait dégager de la présidence de la République, il aurait pu voulu cultiver son jardin, faire du sudoku, je ne sais quoi, et bien tout d'un coup, il se met, un, à se passionner pour Démosthène, et puis il trouve cette femme et il considère que la vie va continuer, alors qu'on est quand même à cette époque, l'espérance de vie, c'est pas 80-85 ans, il repart comme un gamin. Je suis allée lire les lettres dont vous avez formidablement bien parlé et j'ai trouvé qu'elles étaient toutes sauf plates. Et quelquefois, les lettres d'amour d'un vieux monsieur, ça pourrait être « Vous êtes très belle, je vous aime beaucoup, je vous attends énormément, qu'est-ce que je serais contente ?» Et je trouve des phrases absolument étonnantes qui sont quelquefois un peu, non pas coquines, mais c'est pas simplement mon bel écureuil volant quand il lui dit « Sous mon modeste costume, mon petit intérieur flambe comme une fournaise. » Il y a à la fois des choses un petit peu sexy et puis aussi des vacheries. Vous ne l'avez pas dit parce que vous avez un côté romantique, mais il l'engueule sans interruption. Quand il lui dit, il veut lui faire faire un livre, il lui dit, si Shakespeare avait vécu comme vous, il n'aurait jamais écrit Hamlet, du genre, au lieu de faire des confitures et de vous occuper des enfants, vous feriez mieux de vous ramener un petit peu. Donc je me suis dit que c'était un cocktail intéressant.
Vous ne l'avez pas dit, Stéphane.
Si non, vous rajoutez
ça, c'est le Clemenceau qu'on aime, ça.
Oui. Si vous rajoutez à ça la famille de Marguerite qui m'a accueilli et qui m'a montré des archives, des photos, qui m'a expliqué comment leurs parents l'avait décrite, puisqu'elle est morte en 1936. Donc, c'est des petits-enfants qui ne l'ont jamais connue, mais qui se souviennent. J'ai trouvé que c'était un petit cocktail assez marrant. Puis, comme j'aime bien Clemenceau, je me suis laissé aller.
Est-ce que c'était secret comme relation ou quelques personnes étaient quand même au courant? Dans quelle mesure ça s'est ébruité?
C'était pas secret, parce qu'ils se voyaient tous. Ouais. Stéphane l'a dit tout à l'heure, en racontant, il y a même des choses étranges. C'est Clemenceau va dîner chez les déjeuners chez les parents de Marguerite. Alors, tenez-vous bien. Bon, en gros, Clemenceau, 80. Marguerite, 40. Les parents, 60. Donc, les parents sont plus jeunes. Donc, tout ça, ça se voit. Il faut quand même comprendre que cette époque-là, c'est le père la victoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est auréolé de gloire et tout le monde est fier de connaître Clemenceau. Si on ajoute à ça qu'on peut imaginer que ça n'est pas platonique, je ne suis pas sûr que ça le soit. Je ne pense pas que ce soit totalement consommé.
Vous êtes trop prude, Stéphane.
Je pense qu'il y a un moyen terme entre le platonique et le consommé, si vous voyez ce que je veux dire. On ne va pas faire de 50 nuances de possibilités entre eux. Mais c'est à la fois une espèce de rupture dans ce milieu bourgeois, parce que c'est pas évident d'aller, quand on est une femme mariée, d'aller dormir chez quelqu'un, même s'il a 82 ans. Et à côté de ça, une espèce de tolérance. Mais dans la famille de Clemenceau, on n'en parle pas tant que ça. Et quand on publie en 70 la correspondance dont vous parlez, c'est à la demande des enfants de Marguerite. Et côté Clemenceau, on demande un peu à ce que ce soit expurgé et on n'est pas franchement content.
Il faut dire que 40 ans les séparent, deux caractères différents. Lui est fougueux, il est colérique. Elle est au contraire effacée, réservée, discrète, réservée.
Il la martyrise quand même un peu.
Ah oui,
pour être
honnête. Ah oui.
Non, alors attendez, parce qu'il y a une version, c'est genre elle est douce, elle est charmante. Alors il aime bien les femmes un peu fines, un peu délicates, un peu élégantes. Pas celles qui parlent trop. Oui. Il les aime intelligentes quand même, parce qu'il a une grande correspondance avec Madame Donnet. Il est avec des femmes qui sont des intellectuelles aussi. Mais disons que pour la maison ou pour la vie privée, si on peut être effacé, c'est un peu les femmes savantes, vous voyez. Il faut qu'une femme ait des clartés de tout, mais en gros qu'elle ne parle pas trop. Oui. Voilà. Et à côté de ça, il est absolument infernal avec elle. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Il l'aime telle qu'elle est, mais il voudrait qu'elle soit autrement. Il veut qu'elle écrive, il veut qu'elle soit passionnée par lui, il veut être le centre du monde. Il voudrait qu'elle soit sublime. De temps en temps, elle l'est. C'est-à-dire que de temps en temps, elle se lâche, comme on dirait aujourd'hui. Mais le reste du temps, on peut imaginer que ses lettres sont prudes. Et il lui dit que il n'a pas envie de panade et de soupe aux choux, parce que les dieux se nourrissaient de nectar et d'ambroisie. En clair, si c'est pour me faire une espèce de lettre comme on le ferait à sa vieille tante, je voudrais un truc mieux. Oui. Voilà.
Bon, on va continuer à parler de nos amoureux par lettres interposées et de Georges Clemenceau et de Marguerite Baldensperger en particulier avec notre illustre invitée Nathalie Saint-Cricq sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils se sont écrits un peu, beaucoup, à la folie, un amour suivi à la lettre. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Et on parle de Georges Clemenceau et Marguerite Baldensperger avec notre invitée Nathalie Saint-Cricq. Alors, cette Marguerite dont on a parlé qualifiera les lettres de Clemenceau comme le trésor le plus précieux de sa vie. Lui a vraiment brûlé toutes les lettres qu'il recevait. Est-ce que ça, c'est, on en est sûr ?
A priori, oui. C'est-à-dire, on en a... Elle-même, on avait recopié certaines qu'elle avait envoyées, on en a retrouvé une ou deux, mais globalement, on n'a pas retrouvé la partie féminine de l'histoire. Et il a été, et elle s'en est assurée régulièrement. C'est-à-dire que comme elle ne voulait pas le bassiner en lui demandant sans arrêt s'il brûlait bien les lettres, elle lui demandait comment est-ce qu'il les brûlait. D'accord, et comme il était assez fin, il lui disait, j'ai bien compris qu'en me demandant comment vous me les brûlez, je suis obligée de vous avouer, de vous dire effectivement que j'ai pratiqué l'auto-dafé que vous m'aviez demandé. Et lui, il en est triste parce que il avait l'habitude, manifestement, quand il les recevait, de pas les ouvrir tout de suite. Et puis d'attendre un tout petit peu après le déjeuner pour regarder, il allait faire sa sieste. Il faisait le gamin, il gardait sa lettre. Et le fait de le brûler, manifestement, lui brisait le cœur. Parce qu'il avait un cœur.
Et justement, votre livre, Nathalie, est plus que le récit d'une liaison. C'est aussi un récit historique qui nous éclaire sur Clemenceau. Et au fond, on découvre à travers ces lignes un autre personnage que le père de la victoire et le tigre.
Oui, c'est-à-dire que je voulais faire un équilibre. Je ne voulais pas raconter, pour parler vulgairement, un roman Harlequin où c'est simplement Marguerite et Clemenceau, parce que je pense que ce serait passé singulièrement à côté du caractère de Clemenceau. Donc j'ai essayé de revenir régulièrement, parce que j'imagine, vous l'avez dit, il parle peu politique avec Marguerite, il parle plus politique avec d'autres femmes, probablement parce que ce n'est pas quelque chose qui la passionne, mais quand même, il y a des échanges entre eux, où je les ai peut-être inventés ou réinventés, sur sa conception, effectivement, de la politique, sur son inquiétude sur l'Allemagne, parce qu'on est quand même dans toute une période, vous l'avez dit, il meurt en 29, mais en 29 il dira avant de mourir, à Jean Marté qui est son collaborateur, il lui dira avant 10 ans nous aurons la guerre, Marté on est en 29, la guerre c'est 39. Il est certes amoureux, mais c'est pas simplement un petit grand-père qui écrit des trucs. Il a effectivement, et je reviens pour rire sur ses fureurs contre les académiciens, contre la Légion d'honneur, contre un certain nombre de choses officielles, sa grande colère contre les socialistes, même si il a une relation avec Jaurès qui est plus compliquée comme ça. Quand il parle des socialistes en disant comment est-ce qu'on sait que c'est un discours de socialiste, c'est quand c'est au futur. Il a ses combats sur la laïcité. Donc c'est un personnage qui n'abandonne rien et qui a sa partie privée, mais sans arrêt il y a un mélange entre les deux.
Est-ce que cet amour, qui est son dernier amour apparemment avec Marguerite, ça a changé, ça a en tout cas influé la fin de sa carrière politique ? Est-ce que ça l'a adouci ?
Je pense que ça l'a aidé, notamment quand dans la dernière année de sa vie, il n'a jamais voulu raconter la guerre, il n'a jamais voulu raconter ses mémoires. Et tout de suite après la mort de Foch, qui donc a été à ses côtés pendant la guerre, est publié un recueil fait avec un journaliste qui s'appelle Le Mémorial de Foch, dans lequel Foch, déjà mort, mais raconte à un journaliste, c'est publié un mois après, raconte des horreurs sur Clemenceau. En gros, qu'il a été au-dessous de tout, qu'il était un peu dépassé par les événements pendant la guerre, qu'il y a un certain nombre de choix stratégiques qui ont été les mauvais. Et à ce moment-là, Clemenceau va lutter pour vivre chaque semaine, chaque mois, chaque heure pour pouvoir répondre. Et il dit, il est à bout de force, vraiment, il va essayer. Et il dit sans arrêt à Marguerite, je vais essayer de finir ce livre, mais je ne suis pas sûr que je pourrai. Et il va l'écrire pour se défendre, tout en disant, Foch, mon bon Foch, je vous ai aimé. C'est lui qui l'a fait maréchal. C'est lui qui, après le chemin des dames, l'a sauvé parce que les parlementaires voulaient la tête de Foch pour manque d'anticipation. Et à ce moment-là, Clemenceau a dit, si vous voulez Foch, vous m'aurez aussi, je partirai. Il l'a défendu. Il trouve que c'est un truc absolument désolant, mais il revit paradoxalement. Parce qu'on l'attaque. Et cette année-là, ces derniers mois, il réussira, Marguerite sera là, mais elle deviendra, comment dire, une présence gentille, parce qu'il est obsédé par son travail, il est de plus en plus vieux, il se réveille la nuit, il mélange tout. Albert, qui bosse avec lui, l'entend le soir, la nuit, crier « Foch, Poincaré » pendant qu'il dort. Enfin, c'est ce qu'il racontait, j'y étais pas. Et à partir de là, elle va l'accompagner et effectivement, il réussit, point final, et il va mourir pendant que le livre est à l'impression. Et le livre sera un succès, il sera vengé. Mais elle va l'aider à tenir, elle lui tiendra la main et elle lui permettra de se venger, de laver son honneur.
Alors, il y a quand même un combat qu'il n'a pas mené, Stéphane Clemenceau, je crois qu'on peut le dire, c'est le combat du droit des femmes.
C'est moche.
C'est moche, mais c'est vrai.
C'est parce qu'il a mené tous les autres.
Bah oui, absolument. C'est sur tous les fronts, mais celui-là, il est passé à côté.
Complètement à côté, avec des arguments qui sont en partie, enfin qui ont été beaucoup utilisés à cette époque, c'est-à-dire dire qu'en gros, les femmes voteraient comme leur confesseur ou comme leur curé, et que ça serait une façon de donner les pouvoirs à la droite. droite, d'une certaine manière, et comme il était assez anticlérical, il justifiait ça, il justifiait ce genre de choses, et ils ont une conversation là-dessus, alors que quand il rentre des États-Unis, et bien avant tout le monde, il était pour le droit de vote des Noirs. Enfin, et je veux dire, ça ne posait même pas pour lui, tous les humains étaient absolument égaux, et c'est vrai qu'il avait un blocage assez net, par rapport au droit de...
Il a brisé le cœur de beaucoup de femmes.
Il a pris la sienne, non ?
Oui. Il a fait plus que briser le cœur de sa femme, il s'est très très mal conduit avec elle.
Vraiment, on peut le dire.
Dire. Ça, c'est comme vraiment la part, vraiment, la part la plus... Il a divorcé, il l'a jeté, il l'a renvoyé aux États-Unis. Ça, c'est pas ce qui a fait le mieux, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, en tout cas, merci Nathalie Saint-Cric. Je rappelle votre livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, le dernier grand amour de Clémenceau.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires que les livres ont parfois injustement oubliées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors Clémentine, aujourd'hui, vous nous racontez la vie de celle qui a donné la sienne à Martin Luther King, Amanda Luther King. Elle lui a donné la vie, mais elle lui a transmis ses idées aussi.
Oui, écoutez, à votre avis, la foi inébranlable de Martin Luther King, son engagement, ça n'a pas surgi de nulle part. Hein. Il a bien fallu qu'il tète ça un peu au biberon ou au sein maternel, celui non pas d'Amanda, mais d'Alberta, Alberta Luther King.
Il a pensé à Amanda Lear, tout s'est mélangé dans son
c'est
esprit.
Ça, oui.
Je l'ai appelé Amanda.
Oui, vous l'avez appelé Amanda.
Ah oui, c'est Amanda Lear. Amanda, oui. Folle Amanda. Je me dis, oui, c'est Alberta, oui.
Pas le même genre de dessin. En tout cas, Martin Luther King lui-même a témoigné dans ses mémoires de l'influence de sa mère sur son développement moral. Et cette femme, c'était une personnalité hautement charismatique. Elle était née en 1904, c'est pas si loin. Hein. Je sais pas de quand est née votre grand-mère, vous, mais en 1926, c'est la vôtre.
1914.
Ah, c'était une petite jeunette. En tout cas, Alberta, elle était à la fois, écoutez bien, fille, épouse, mère de pasteur. Vraiment, elle avait la foi chevillée au corps et elle a été toute sa vie la paroissienne survitaminée de l'église baptiste d'Ebenezer à Atlanta. Et dans cette église, on prêchait son père, son mari, son fils et elle tenait l'harmonium. Elle a tenu l'harmonium de 1932 à 1972, c'est-à-dire tous les dimanches à l'harmonium dans sa paroisse. Hein, ça, c'est quelque chose, une vie de dévouement. Oui. Et cette femme avait obtenu un diplôme d'enseignement.
C'est à la fin, c'est l'harmonium qui se tenait à elle.
Elle connaissait bien les cantiques. À mon avis, elle avait pas besoin de partition. Hein. Bon, donc, c'est une femme qui aurait dû se destiner à l'enseignement, mais dans la ville où elle était, l'enseignement est interdit aux femmes mariées. C'est étrange. Hein. Donc, elle devient femme au foyer. Et elle va se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle est une mère de couleur dans une Amérique ségrégationniste des années 50, et où les Noirs endurent quotidiennement des humiliations. Donc, ça l'inquiète beaucoup pour ses enfants. Elle se dit « Je veux pas que mes enfants subissent ces discriminations. » Et elle va donc mettre un point d'honneur à leur apprendre l'estime de soi et la dignité. Et quand Martin Luther King a fait sa première expérience de la ségrégation raciale, il avait 6 ans. Il avait un petit voisin blanc qui lui a dit « Écoute, j'ai pas le droit, mes parents m'interdisent de jouer avec toi. » Et donc, Alberta va essayer de lui expliquer. Elle lui dit « Écoute, tu dois pas te laisser atteindre par ça. Ne te rabaisse jamais, ne te laisse pas aller à la haine, ne pense pas que tu sois inférieur à qui que ce soit, c'est faux. » Donc très vite, Alberta, elle va militer pour les droits civiques au sein de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Son mari, Michael, en est le représentant pour la ville d'Atlanta. C'est Michael, c'est le père de Martin qui a eu l'idée d'ajouter Luther par affection et passion et attachement au protestantisme. C'était pas son nom de famille. Luther, c'est lui qui l'a ajouté à leur patronyme. Il prenait plus les ascenseurs, il prenait plus les autobus, un peu comme Rosa Parks, parce qu'il estimait que les personnes de couleur y étaient brimées. Mais en tout cas, quand on lit les souvenirs et la correspondance de Martin Luther King et ses différents témoignages, il a le souvenir plutôt d'un père sévère, et c'est sa mère qui était vraiment pour lui, la meilleure mère du monde. Hein. Il a eu un lien très fort avec elle toute sa vie. Quand il partait travailler pour gagner un peu comme étudiant, hein, sa vie pendant les vacances, il lui écrivait des lettres, il lui demandait du poulet frit et des Rolls. Il n'en était pas encore à des grandes...
Ah, des Rolls,
Rolls, oui. Enfin, ouais,
pas
oui,
les voitures.
Que c'est...
Pas
les
Rolls.
Oui, pas les voitures, oui, pardon. Ouais, pas les voitures. En tout cas, c'est bien... En tout cas, c'est bien sa maman qui l'a poussé à faire un doctorat en théologie à l'université de Boston en juin 55. Et vous imaginez ce que ça a dû être pour cette mère de voir son fils au Capitole l'a prononcé le 28 août 63 « I have a dream ». Je sais, ça, je voyais, je l'ignore. Est-ce
foule,
qu'elle l'a regardé
vibrant.
À la télévision ou est-ce qu'elle était présente? En tout cas, elle a vu son fils devenir le plus jeune prix Nobel pour sa lutte non-violente contre la ségrégation raciale. Pour une mère, c'est un truc incroyable. Bon, le 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné à Memphis, Tennessee. Il avait 39 ans. Au lendemain de cette tragédie, c'est Alberta qui maintient sa famille debout. Mais un an plus tard, elle perd aussi son second fils, qui allait lui aussi devenir pasteur de l'église des Ebenezer, et il meurt noyé dans sa piscine. Et 6 ans plus tard, le 30 juin 1974, alors qu'Alberta joue ses cantiques préférés, comme elle le fait depuis 40 ans, dans sa bien-aimée paroisse des Ebenezer, elle est assassinée par un jeune afro-américain déséquilibré de 23 ans, Marcus Wayne Cheno, qui prétendait avoir pour mission sacrée de tuer tous les chrétiens. Et donc Alberta est le deuxième King assassiné et toute la presse à l'époque a titré « Another King Killed ». Elle avait 70 ans. Le tueur a été condamné à mort, mais la famille Luther King a demandé sa grâce au nom de Martin et d'Alberta, tous deux farouchement opposés à la peine de mort, tous deux sacrifié pour avoir osé rêver d'un monde meilleur. Et ce jeune homme là, déséquilibré, Cheno, il est mort il n'y a pas si longtemps, il est mort à 44 ans d'un AVC en 95, c'est pas si vieux. C'est-à-dire que toute cette histoire de la famille Luther King, ça nous paraît complètement attaché aux années 60 et très ancien. Et en fait, les protagonistes sont morts il n'y a pas si longtemps. Quand on commémore la mort de Martin Luther King...
Il faut penser à sa maman,
oui,
Alberta.
Oui, absolument.
Merci Clémentine.
C'est l'éco-justice.
Clémentine, vous restez avec nous. I have a dream. I have a dream that we play Born to be Alive. Notre célèbre quiz. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quel est ce miracle, s'interrogent les observateurs. Depuis quelques jours, en effet, il arrive que parfois, Stéphane Bern l'emporte dans le quiz face à Clémentine Portier-Kaltenbach, qui le dominait traditionnellement de la tête et des épaules, voire des genoux. Clémentine, jadis rayonnante, qui désormais commence à s'agacer lorsqu'elle réalise qu'elle n'a pas donné la bonne réponse, ne trouvant à s'exclamer que...
Oh, bon, c'est... Oh...
Jouons à Born to be Alive, notre fameux quiz. Stéphane, la première question est pour vous, c'est la règle. En 1939, à Suse, une ancienne cité iranienne au sud-ouest du pays, comme vous le saviez forcément, est trouvée grâce à des fouilles le petit chien à Bélière. Aujourd'hui exposé au Louvre, c'est un pendentif en or qui fait 1,5 cm de taille. Il date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ et c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un chien est représenté avec une laisse. Vrai ou faux? Question technique, question archéologie. C'est pour vous, Stéphane.
C'est une laisse ou c'est... Vous dites que c'est un pendentif.
Oui, mais je me pose la question. Est-ce que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un petit chien est représenté avec une laisse?
Sur le pendentif.
Sur le pendentif,
sur le pendentif, oui. Je dirais oui, je dirais oui.
Vous êtes allé au Louvre dernièrement?
Oui, je suis allé au Louvre, mais je suis allé voir d'autres choses que...
Vous n'êtes pas allé voir le petit chien?
Non, je ne suis pas allé voir le petit chien. J'ai vu les antiquités égyptiennes et la peinture française.
Vous avez...
Perdu.
Perdu.
Vous auriez mieux fait de visiter l'aile où est abrité le petit chien. C'est faux. C'est donc faux. Il n'est pas le premier chien représenté avec une laisse. En revanche, ce petit pendentif existe et il est très important pour une autre raison. C'est la première fois de l'humanité qu'on constate une soudure. Ça implique la maîtrise de métaux poussés à des températures supérieures à 800 degrés. L'anneau de suspension du pendentif a été fixé grâce à une soudure qui a mélangé le cuivre et l'or. Fascinante maîtrice de la métallurgie, vous y penserez la prochaine fois. Au lieu d'aller voir la Joconde, vous la connaissez la Joconde, allez voir d'autres merveilles.
Rappelez-moi la taille de votre chien.
Quoi, la taille de mon chien? 1,5 cm. Ah, c'est une étude poussée. Hein. Il faut mettre l'audio guide, il faut suivre un petit peu. Bon, question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Eugène Viollet-le-Duc, Auguste Bartholdi, Gustave Eiffel, on leur doit la statue de la liberté. Elle a été offerte aux Américains de la part des Français à l'occasion du centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. Voici ma question. Son nez est-il plus grand que la taille de Stéphane Bern à l'époque où il présentait Saga sur TF1, car aujourd'hui c'est un peu tassé?
Vous avez le nez qui s'est tassé, Stéphane.
Non, c'est tout. Le corps de Stéphane.
Le corps, forcément,
parce qu'on parle de la statue, on parle de la statue
avec
de liberté.
Ah, c'est l'andropause généralisée.
Oui, bien sûr, on se tasse, forcément, on perd un centimètre ou deux.
Ah bon? Bon, alors, êtes-vous plus grand que le nez de la statue de la liberté?
Voilà la question.
Rien que le nez ferait 1m70, vous faites entre 1m70 et 1m75, Stéphane. Vous
n'avez jamais monté dans la statue de la liberté?
Si, je suis monté dans la statue de la liberté, mais je dois avouer que je ne m'étais pas posé la question de la taille de son nez. Ça ne m'a, j'étais plutôt saisi par la grandeur des lieux. Vous voyez, alors le nez, est-ce que son nez peut faire 1m70? Ça veut dire que vous pourriez vous allonger sur le nez de la statue.
Très génial.
C'est-à-dire une belle photo à faire pour Paris Match. À mon avis, ça ferait la une.
Vous croyez?
Non, ça me paraît grand. Ça me paraît grand, 1m70 pour son nez. Non, je réponds non.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Clémentine. Une bonne connaissance et de la statue de la liberté et du physique de Stéphane Bern. Le nez de la statue de la liberté est plus petit, 1m48, alors que Stéphane nous l'a dit à l'instant, il mesure 1m combien?
75.
1m75, voilà,
oui.
Ça demande.
Oui, parce que vous voyez, je la visualise très bien, parce qu'elle a été, je vais vous faire une chronique là-dessus un de ces jours-là, elle a été conservée rue de Chazeille. Dans l'atelier Gagé, quelque chose. Oui. Et je la vois, cette tête comme ça, et je me dis, 2 mètres rien que pour le nez, c'est trop, enfin, ouais, près de 2 mètres, oui. Oui, là-dessus,
vous n'êtes pas peu fier de votre bonne réponse.
Suivez mon intuition, j'ai bien fait.
1 à 0. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. L'année dernière, nous avons dû dire adieu à Kirk Douglas. Longue carrière au cinéma, mais pas tant que ça si on la compare à la carrière de Diana Serra Carey. Elle a longtemps été la dernière star vivante du cinéma muet. Elle nous a quittés également l'année dernière, comme Kirk. Elle avait le record de longévité dans le 7e art, car elle avait commencé à 13 ans. Vrai ou faux?
Redites-moi son nom qui...
Diana Serra Carey.
Ah oui.
Mais c'est le cinéma muet, hein.
Oui. Ah, ça... Oui, elle n'a jamais pu prononcer son nom. Écoutez, pour vous dire la vérité, bon, je m'y connais un peu en histoire, un peu moins en cinéma, et je n'ai jamais entendu ce nom-là.
Donc vous pensez qu'il y aurait un piège dans cette question?
Je confesse ma nudité.
Mais alors qu'est-ce que vous répondez?
Peut-être que jouer le rôle d'une petite fille dans une...
Écoutez, je dirais oui, parce que elle mérite qu'on lui rende dommage.
Elle mérite
le faucheton.
Elle mérite qu'on lui rende dommage. Découvrons si c'est la bonne réponse.
Il sait même pas qui c'est.
Vous avez perdu.
Ah oui, non. Quand vous écoutez votre cœur, ça ne fonctionne pas.
Jamais. En fait, il faut être pervers comme vous.
Il faut me ressembler pour triompher dans ce quiz. Oui. C'est faux. Elle avait commencé... Mais elle existe, Diana Serra Carey. Elle a commencé, non pas à 13 ans, mais à 3 ans. Et tout le reste est vrai.
Oui.
C'est le record de longévité au cinéma, avec un premier film en 1921 et un dernier court-métrage en 2015. Elle était surnommée, c'est comme ça que vous la connaissiez peut-être, Baby Peggy, en tout cas au début, parce que sur la fin...
Oui, c'était un genre de Shirley Temple, voilà. C'est ça qu'il fallait comprendre, mais qui n'a pas c'est fait ça. La même c'est carrière. Ça.
Oui, en fait, le piège, c'était pas 13 ans, c'est 3 ans.
Oui, voilà. C'était le piège, effectivement, et vous êtes tombé dedans.
Mais forcément.
Du haut de votre maître 75. Question
ça
numéro
sent l'écurie,
4.
Là. Je
pour
domine
vous,
la
Clémentine,
la question.
Vous dominez.
Vous allez gagner.
Vous dominez outrageusement.
Oui, enfin...
Sauf en cas de mauvaise réponse à ces questions, vous perdez 3 points, on est à égalité.
Sur votre nez, en plus. Stéphane. Hein.
Évoquons à présent la chanson préférée de Stéphane Bern, surtout quand elle est jouée juste après une allocution de notre président de la République, la Marseillaise. Est-ce qu'elle est plus rapide sous Giscard ou sous Mitterrand?
Elle est plus rapide sous Mitterrand parce que justement, une des décisions de Giscard d'Estaing avait été, me semble-t-il, d'en ralentir le rythme. Mais il voulait aussi prendre le chant du départ comme hymne national, ce qui m'aurait bien plu, moi, personnellement. Oui, elle était donc plus lente sous Giscard que sous Mitterrand.
Vous avez gagné.
Plus bravo. Qu'une victoire.
C'est
une victoire.
Je peux me retirer dans la poule.
Magnifique. Clémentine, vous remportez ce quiz. Valéry Giscard d'Estaing avait fait ralentir son rythme pour que la Marseillaise apparaisse moins militaire. Mitterrand, qui n'en avait rien à foutre, avait remis le rythme comme il était avant. Personnellement, j'aime la Marseillaise, surtout quand elle est interprétée par Django Reinhardt. C'est plus guiré, c'est plus jazzy.
C'est l'expression de la joie de vivre.
Exactement.
Mais ça montre aussi à quel point la mélodie de
Rouget de Lille.
Bah, qui n'est pas de Rouget de Lille, parce qu'on ne sait pas de qui elle est. Elle est peut-être de Haydn.
Encore une mauvaise réponse non, à la fin du quiz.
Mais les paroles sont de Rouget de Lille, on peut imaginer.
Enlevez-lui encore un point, là.
Oui, on vous enlève encore un point. Victoire 7 à moins 1 de Clémentine Portier-Keltenbach.
<rire> 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, 2 heures où l'on vous raconte l'histoire sans se la raconter à travers des personnages aux destins étonnants. Des personnages qui aujourd'hui se distinguent par leur plume, Mathieu.
Oui Stéphane, des amoureux transis qui s'écrivaient beaucoup. Cet après-midi, on rend hommage à la beauté des amours épistolaires. Aujourd'hui, tout va trop vite. Et en amour aussi, on vient à peine de se rencontrer sur Tinder que déjà on se retrouve dans une chambre d'hôtel et le mec vous dit
« Déshabillez-vous ».
On a oublié que le plaisir est aussi dans l'attente, dans les mots. Nos personnages, eux, le savaient parfaitement.
Oui, Mathieu, un amour suivi à la lettre. C'est notre thème cet après-midi et vous connaissez la chanson. Une femme avec une femme, ça n'a pas toujours été évident dans la société. Nous allons plonger dans la magnifique correspondance de Virginia Woolf et Vita Sackville-West, deux femmes écrivaines qui s'aimaient et qui, vous allez voir, aimaient s'écrire aussi.
Mon amour épistolaire à moi sera plus succinct, Stéphane. On n'a retrouvé qu'une seule lettre, celle de la rupture. Mais quelle lettre ? Celle que le célèbre rappeur Tupac a écrit en 95 à sa copine de l'époque, une certaine Madonna. Vous verrez les jeunes, c'est autre chose que vos SMS de rupture avec des émoticônes de singes qui pleurent.
De l'émotion, oui, mais du divertissement toujours, grâce à nos chroniqueurs de talent.
À commencer par le formidable, quoique chelou sur les bords, David Castello-Lopez, un professionnel du journalisme qui sait se remettre en cause et faire preuve de lucidité sur son travail, comme après sa funeste rubrique sur la greffe fécale.
C'était, on pourrait dire, légèrement dégueu.
On peut le dire. Donc aujourd'hui, David, vous allez partager avec nous un sujet plus goûter compatible.
Tout à fait. Il s'agit des méthodes pour lutter contre la chute de cheveux.
À côté de vous. Mais oui, c'est Olivier Pouls qui lui aussi, ma foi, ça c'est le... C'est le vin qui entretient comme ça le follicule.
L'alimentation, cher
ami. L'alimentation, c'est
la première de nos médecines, vous savez. Et puis, s'il est un aliment qui est excellent pour notre santé, c'est bien l'asperge. Alors là, non, c'est bon.
Oui, mais ça fait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Après, quand on urine, qu'est-ce ça sent fort.
Quand on urine, effectivement.
Il y a une petite molécule dans l'asperge qui fait... Alors, c'est pas du tout, ça pose aucun problème. C'est plein de fibres, c'est pratiquement que des fibres et de l'eau. Il n'y a que des avantages à manger des asperges.
Le mot de la fin, ce moment de l'émission où on décortique pour vous une expression, c'est évidemment le moment de gloire de Stéphane Bern qui connaît toutes les expressions de la langue française. Tous les mots aujourd'hui, les potins, Stéphane.
Oui, les potins, les derniers potins. Pourquoi ? Quand on parle des rumeurs sur les stars, on appelle ça des potins.
C'est vrai, même pas forcément sur les stars, Stéphane. Ça peut être des potins sur les collègues, par exemple.
Oui. Pourquoi on appelle ça des... Tiens, t'as pas des potins
Où a dormi David avec sa chemise mal froissée comme ça Ça, c'est des potins, c'est aussi sur les collègues. Oui. Et tout de suite, Olivier, si je vous dis une femme avec une femme... oui, Stéphane nous raconte l'intense relation épistolaire entre deux femmes de plume, Virginia Woolf et Vita Sackville-West.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
L'une s'appelle Virginia Woolf, l'autre Vita Sackville-West, deux femmes, deux plumes qui s'aiment et se le disent par écrit. Si le cachet de la poste fait foi, l'amour lui fait loi. C'est une histoire d'amour qui a fait couler beaucoup d'encre que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Heureusement que ces deux femmes savaient écrire pour s'aimer et avec un talent incomparable, car être lesbienne en 1920 n'est pas, vous vous en doutez, des plus aisés. Je dis lesbienne et pourtant Virginia Woolf détestait ce mot. Celle qui est considérée comme l'un des plus grands auteurs modernistes du XXe siècle ne supportait pas d'être mise dans des cases. Comme les héros de ses romans, elle aimait la liberté, celle de vivre, de travailler et sur le tard, d'aimer. Pourtant, elle aussi cède aux sirènes du mariage avec un homme, Leonard Woolf. Une union qui la comble intellectuellement et socialement, mais qui s'avère être une excellente couverture. Elle peut ainsi entretenir une relation intime avec Vita Sackville, elle aussi mariée avec un homme ouvertement bisexuel. Dans tout Londres, vous et moi sommes les seules femmes à être contentes de leur mariage, confie dans l'une de ses lettres Virginia Woolf à Vita. Les deux femmes se voient pour la première fois à Londres le 14 décembre 1922 lors d'un dîner donné par le beau-frère de Virginia. Dès leur rencontre, Virginia et Vita sont fascinées l'une par l'autre. Virginia est intriguée par cette femme de 10 ans plus jeune, arborant fièrement une coupe à la garçonne et une tenue plutôt masculine. Vita ne s'en cache pas, elle apprécie les femmes. Si cette franchise déroute Virginia, l'auteur du livre à succès, Mrs. Dalloway, veut en connaître davantage sur cette trentenaire libérée. De son côté, Vita est subjuguée par l'intelligence, la culture, le génie, mais aussi la fragilité que laisse deviner Virginia. Elle l'écrit d'ailleurs à son mari juste après cette soirée. « J'adore tout simplement Virginia. Elle est à la fois distante et humaine. Je me suis rarement entichée de quelqu'un aussi fortement et je pense qu'elle a de la sympathie pour moi. Chérie, me voici amoureuse. » Vita n'y va pas par quatre chemins. Une rencontre lui a suffi. Pourtant, tout oppose ces deux femmes de lettres. Vita possède une personnalité fougueuse, farouchement accrochée à la vie. Elle recherche l'ivresse des rencontres, se délecte du moment présent. À l'inverse, Virginia est d'une nature discrète, taciturne. Lorsqu'elle se rencontre en 1922, la romancière a déjà connu plusieurs périodes de dépression. Son travail d'écriture prime sur tout le reste. Les mondanités, oh, très peu pour elle. Pendant plusieurs mois, elles échangent peu. Mais Virginia ressent l'irrépressible envie d'en apprendre davantage sur Vita. Elle trouve la solution en lui proposant d'écrire un récit qu'elle et son mari publieront dans leur propre maison d'édition. Alors que Vita s'y attelle lors d'un voyage en Italie, elle tente une approche cavalière pour l'époque. Aurez-vous jamais l'idée de planter la Bloomsbury et la culture pour venir faire l'école buissonnière avec moi ? Mais Vita doit s'armer de patience. Il n'est pas donné à tout le monde de briser la glace avec Virginia Woolf, dont les réponses restent conventionnelles. « Ma chère Vita, êtes-vous rentrée ? Et avez-vous fini votre livre ? Qu'en pensez-vous pouvoir nous le donner ?» Pourtant, progressivement, la relation entre l'éditrice et l'écrivaine glisse vers une amitié plus ambiguë. En novembre 1924, Vita tente une visite à l'improviste chez elle, sans succès. Virginia est sortie se promener. Voici sa réponse. « J'aurais aisément pu être là, car j'avais très envie de vous voir. » La timide Madame Woolf semble se laisser aller à davantage de confidences. Mais leur histoire débute véritablement l'année suivante, lors d'un séjour inoubliable pour les deux femmes. Le 17 décembre 1925, Virginia rejoint Vita dans sa maison de Longbourn, à 100 km au sud-est de Londres. C'est durant ce week-end qu'elles vont enfin se découvrir pour la première fois dans leur intimité respective. Vita a pour réputation d'être une croqueuse de femmes. Plus de 50 amantes auraient succombé à ses charmes. Pour Virginia, en revanche, cette expérience est une révélation. C'est lors de ce week-end, loin de Londres, de son mari et de son travail d'écriture, qu'elle peut enfin s'abandonner sans retenue dans les bras de celle qui l'attire depuis plus de 2 ans. C'est un secret pour personne. Elle n'a jamais aimé faire l'amour avec son époux. En revanche, goûter au moindre centimètre carré de la peau de Vita la transporte. Elle s'en émeut dans son journal intime. Ces lesbiennes aiment les femmes. Leur amitié ne va jamais sans érotisme. J'aime Vita. J'aime être avec elle et j'aime son rayonnement. Elle brille dans l'épicerie de Seven Oaks de l'éclat d'une bougie allumée. Vita, de son côté, parlera plus tard d'une explosion qui se produisit sur le sofa de ma chambre. Après ces moments uniques de vérité corporelle, rien ne sera plus comme avant. Les deux femmes, amoureuses, s'adressent désormais des lettres d'un romantisme rare. Vita, par exemple, l'implore dans l'un de ses courriers « Je t'en prie, dans tout ce fatras de la vie, continue d'être une étoile fixe et brillante. Il y a si peu de choses qui se perpétuent comme des phares, la poésie et toi et la solitude. » Parfois, les lettres sont bien plus enflammées. En janvier 1926, Virginia se lâche. « Oui, très chère créature, viens, viens demain, aussitôt que possible, et nous collerons des timbres et nous irons voir les poissons. »
Les deux amants... Parce qu'il y a un double sens là derrière, parce que coller des timbres, on connaît des activités plus érotiques, Stéphane.
Oh, la philatélie, vous savez, c'est très érotique. Les deux amantes sont inséparables, mais souvent séparées. Vita part souvent en voyage. À chaque fois, c'est une déchirure, particulièrement pour Virginia qui lui écrit. « Oui, je pense souvent à toi. J'ai en tête des millions et des millions de choses à te dire. Diablesse que tu es de t'être enfuie vers la Perse et de me planter là. » Pourtant, au fil des mois et des années, l'euphorie, la passion amoureuse des débuts se dissipe. Et Vita se détache, succombe à d'autres femmes. Pour Virginia, le coup est dur à encaisser. En réponse, elle n'hésite pas à tancer sa cadette sur son style littéraire qu'elle juge, en privé, un peu dépassé. Quant au mot juste, vous vous trompez complètement. Le style est très simple. Ce n'est qu'une affaire de rythme. Malgré tout, Virginia est éternellement attachée à son impétueuse Vita. Elle s'en inspire même pour le personnage principal de son livre, devenu un best-seller Orlando. Un livre que le fils de Vita, Nigel Nicholson, considère comme la plus longue lettre d'amour de l'histoire. La plus longue, mais pas la dernière. Après la publication, la relation entre les deux femmes s'apaise et elles entament une amitié solide. Elles s'écriront au total plus de 500 lettres, jusqu'à ce que Virginia, plongée dans une nouvelle dépression, se suicide dans la rivière de Lewes en 1941.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors Stéphane, pour continuer à parler de Virginia Woolf et Vita Sackville-West, nous avons l'honneur d'être avec l'écrivaine Christine Orban. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bonjour Christine Orban. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux romans et notamment Virginia et Vita, paru chez Albin Michel et réédité au Livre de Poche. Un roman inspiré de la passion tourmentée entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West. C'est vrai que cet amour entre ces deux femmes est romanesque. Qu'est-ce qui est le plus romanesque pour vous dans cette histoire ?
L'atmosphère. Virginia habite un petit cottage, Monk House, où elle reçoit des intellectuels, des artistes, alors que Vita, elle a été élevée dans un des plus gros et plus beaux châteaux d'Angleterre, 365 chambres, et elle reçoit la Queen Mary, George V. C'est deux ambiances tout à fait différentes. C'est l'histoire aussi de deux fascinations pour deux milieux. La bohème d'un côté, fascinée par l'aristocratie, et Vita, évidemment, l'aristocrate avec ses bottes crottées, et fascinée, évidemment, par la bohème, par toute cette ambiance d'intellectuel du début du siècle en Angleterre.
Elles étaient donc très différentes, on l'a compris. Vous écrivez, Vita était une femme, une maîtresse de maison, un écrivain, une célébrité, une épouse, une amante, une mère. Virginia n'avait rien de tout ça. C'est cette altérité qui les a aimantées, si j'ose dire.
Vous savez, oui, évidemment, les contraires qui s'attirent, mais aussi Virginia avait la langue bien pendue. Elle pouvait être méchante. Elle disait de Vita, tu as mis ton talent dans ta vie et moi dans mon œuvre. Vous imaginez,
c'est méchant.
Alors, en effet, parce que Virginia était, elle, incapable d'être mère, d'être une vraie épouse, de recevoir. Et la vie de Vita est bien plus complète, bien que moins talentueuse, comme cruellement Virginia lui faisait sentir.
Mais au fond, ce qui est intéressant dans ces histoires qui vous a passionné, c'est quand leur relation amoureuse se transforme en création littéraire.
Évidemment. Parce que, alors il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis trouvée, je ne me compare pas du tout à Virginia, mais dans la même situation d'un auteur marié à un éditeur. Bon, alors je me suis dit comment elle, Virginia Woolf, s'en est tirée avec son mari éditeur. Alors j'ai regardé, quand il a décidé de faire sa maison d'édition la Hogarth Press, pardon, il n'avait aucun auteur. Et Virginia sort d'une grande dépression, comme très souvent, et quand elle va lui proposer le fameux Orlando, et il va accepter, alors que c'est une histoire un petit peu pour lui difficile à éditer, c'est l'histoire de sa femme et de la maîtresse de sa femme. Mais ils vont installer une presse à bras dans la maison, et c'est comme ça qu'ils vont commencer à éditer.
C'est un roman, Orlando, mais c'est très peu fictionné, dites-vous, c'est vraiment leur histoire.
Ah oui. On a une chance folle quand on s'attaque à Virginia, c'est qu'il y a une correspondance très importante et un journal où elle écrivait toute sa vie. Oui. Je pense qu'elle vit vraiment par l'écriture.
Mais est-ce que vous diriez que Vita est une muse ?
Totalement une muse, finalement. Alors qu'on a l'impression que cette femme indépendante, poétesse elle-même, tout ça, forte, ne devrait pas l'être. Elle l'est totalement. D'ailleurs, Virginia lui dit « Je vais te modeler comme de la pâte à gâteau. » Elle dit « Je serai que le toutou de Virginia. » Ce sont leurs paroles. Virginia, ce qui m'a intéressée, c'est le vampirisme d'un écrivain. Orlando est plus important que Vita et elle va tout prendre dans Vita pour créer Orlando. Elle est tellement forte qu'elle va donner à Vita, elle va lui montrer peut-être que les aristocrates sont plus enviables que les pauvres écrivains, mais moi, je suis Dieu sur ma feuille, moi, je vais te changer de sexe, tu rêves d'être un garçon, eh bien, dans Orlando, je vais te transformer en homme. On est en 1927, les femmes n'ont pas le droit, c'est hallucinant, en Angleterre, d'hériter. c'est Denis, son cousin, qui va hériter du château de Nol, alors que c'est elle qui a été élevée. Elle a sculpté les arbres avec des cœurs et des noms de ses nombreuses maîtresses tout le long du parc. Eh bien, moi, je vais te permettre, dans Orlando, d'hériter de ton château de Nol. Donc, c'est la toute-puissance de l'écrivain sur l'aristocrate.
Dans la vie, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'à la fin, vous l'avez dit, Stéphane, Vita se détache un peu. Elle commence à avoir d'autres aventures à nouveau, elle reprend d'autres aventures. Oui. Ça a dû être terrible pour Virginia Woolf. Pour elle, c'est une histoire unique.
En fait, quand elle va finir Orlando, elle va mettre un point final et elle va quand même se détacher. C'est le cynisme presque de l'écrivain. L'amoureuse passe bien après l'écrivain. Elle a fait ce livre qui a été un immense succès, qui a fichu un bordel, pardon, dans la famille Sackville terrible, parce que Vita, à cause de ce livre, va se fâcher avec sa mère, qui va lui reprendre son collier de perles. Mais elle est dite, elle assume, oui, elle est homosexuelle en Angleterre en 1927. Et puis elle raconte des choses assez précises quand même sur cette famille, qui est une très grande famille en Angleterre, les Sackville. Donc, bon, elle a fini son livre, elle est contente et elle va se lancer dans la bataille féministe. Tout de suite après, elle enchaîne et c'est là où elle va écrire Une chambre à soi. Voilà, donc elle n'arrête pas d'écrire. Si elle arrête, elle a en général une dépression. Je pense qu'elle a été un peu, peut-être triste, mais pas très longtemps. Ah oui. L'écriture passe avant tout. C'est pas une amoureuse, c'est pas une sensuelle.
C'est une artiste avant tout.
Oui.
Vous en parlez merveilleusement. Merci Christine Orban pour tout connaître de cette relation entre Virginia Woolf et Vita Sackville.
Oui, surtout ces histoires de lécher des timbres dont vous parliez tout à l'heure, Stéphane. J'ai pas tout compris, mais pour en savoir un peu plus, effectivement, il faut découvrir ce livre.
Mettez-vous à la philatélie, vous verrez. Ça me donnera beaucoup de plaisir.
On en fait des choses dans les châteaux, vous savez.
Je ne peux que recommander le roman de Christine Orban, Virginia et Vita, réédité au livre de poche. Et puis votre dernier livre, paru l'an dernier, Est-ce que tu danses la nuit ? C'est toujours chez Albin Michel. Merci beaucoup, Christine Orban.
Merci Stéphane, merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont aimés et qui se sont écrits. Parfois en secret. Après Virginia Woolf et Vita Sackville-West, vous allez, Mathieu, nous faire part d'une lettre bien plus récente, datée de 1995 et rédigée par un certain Tupac Shakur à l'attention d'une certaine Madonna.
Oui, sulfureuse histoire cet après-midi, Stéphane, montée dans ma 205 GTI Jantalu, je vous ramène en 1995. Oh 1995, d'ailleurs, je n'avais pas encore de 205 GTI puisque je n'avais pas encore le permis. J'avais 13 ans. David aussi, et notre quotidien, c'était des défis intelligents.
Qui c'est qui peut avaler le plus de tabasco ?
Nous prendre des râteaux par des meufs trop branchées pour nous, dans des jeans trop grands pour nous, revers incompréhensibles, alors que pourtant nous sniffions du tang à la récré, ce qui était, pensions-nous alors, le summum de la coolitude. 1995, période charnière dans l'histoire du hip-hop, puisqu'on ne savait pas alors qui, d'Alliance Ethnique ou de Tupac, passerait à la postérité. Il se trouve que ce fut Tupac. C'est surtout le symbole d'une époque du rap américain, celle de la rivalité East Coast-West Coast, côte Est, côte Ouest. Les rappeurs de New York ne pouvant pas piffrer ceux de Los Angeles, c'était très violent, hein, les insultes fusaient.
Petit foutriquet, vieux serpent à lunettes.
Oui, parfois même, comme on avait affaire à d'authentiques bad boys, on se tirait carrément dessus. C'était très violent. Et de tous les rappeurs de l'époque, l'un des plus rebelles à toute forme d'autorité, le plus gangsta, si vous voulez, c'était Tupac. Il a 20 ans en 1990, un âge où on aime faire des bêtises, tester les limites. Même vous, Stéphane, comme vous nous l'aviez raconté une fois.
Dans mon enfance, il y avait... On tirait le cordon. Donc elle ouvrait la porte, quelle que soit l'heure où on rentrait. Bon, ça posait des problèmes parce que le lendemain, elle disait à mes parents... Stéphane est rentré à 2h.
Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à 2h du matin dehors, Stéphane?
J'allais boire des coups. À Vitelmente.
Sauf que Tupac, lui, c'était pas des Vitelmente qu'il allait boire la nuit. Et non, et non. Pendant que vous tiriez le cordon du concierge, whatever that means, lui, il participait à des braquages, des fusillades entre bandes rivales. Il découvrait le doigté délicat des policiers américains. En 94, quand il écrit à Madonna, il purge d'ailleurs une peine de 4 ans de prison. Car oui, Tupac et Madonna ont donc eu une liaison.
À votre petit sourire, Stéphane, je devine ce que vous vous dites. Avec qui Madonna n'a-t-elle pas eu de liaison?
Elle voit passer plein de monde entre ses cuisses.
Oui, on a compris, Stéphane, inutile de l'accabler. Après tout, elle fait bien ce qu'elle veut. La liste de ses amants stars ne nous regarde pas.
Et elle a bien connu André Dassary.
Bien. En 1993, probablement un peu lassée d'André Dassary, d'autant que Pfizer n'a pas encore inventé le Viagra, Madonna se tourne vers ce jeune rappeur fougueux, perpétuellement torse nu, qui cartonne, Tupac Shakur. Elle fait sa connaissance lors des Soul Train Music Awards de 93. Année inoubliable marquée par la sortie de Jurassic Park, la victoire de l'OM en Ligue des Champions, la commercialisation de la Citroën Xantia et du premier aspirateur Dyson sans sac dont je ne me souviens pas si je vous ai dit qu'il était super. Ah si, je vous l'ai dit puisque j'en ai reçu un gratuit derrière. Bref, entre Madonna et Tupac, le coup de foudre est immédiat. On ne perd pas de temps en first date, second date, tout ça, on est moderne, ça va très vite. Madonna lui dit d'emblée:
c'est un pistolet dans votre poche ou vous êtes juste content de me voir?
Oh, avec la voix de Clémentine Portier-Kaltenbach, qui ne déstabilise pas pour autant Tupac, qui la pécho le soir même. Alors, leur relation est peu documentée jusqu'en 2017, où une lettre manuscrite de Tupac destinée à Madonna, qu'il a rédigée en prison en 95, est mise aux enchères. Il y explique pourquoi il a mis fin à leur relation. Madonna tente de s'opposer à ce que cette lettre soit rendue publique, et cette lettre, vous vous en doutez, je me la suis procurée. Un mot encore de Tupac, j'ai choisi volontairement de vous épargner une biographie de Madonna que vous connaissez tous, hein. Je me suis dit que si je me lançais dans la bio de Madonna, vous alliez sombrer dans un ennui proche de celui qui envahit Stéphane lorsque, hors antenne, David commence à lui raconter sa vie.
J'ai travaillé, moi, pendant 5 ans dans une entreprise qui s'appelle l'agence Kappa.
Ah ouais ? Mais c'est bien.
Donc, juste un mot de Tupac qui, aux surprises, ne s'appelle pas vraiment Tupac, mais c'est moins glamour, Jean-Noël Couillard.
Mais non.
Si, c'est ce qu'affirment en tout cas les fans de Notorious B.I.G., l'ennemi juré de Tupac. Les autres estiment qu'il s'appelait plutôt Les Saint Parish Crooks, qui voit le jour en 1970 à Harlem. Et si je vous ai déjà parlé de son côté bandit, j'ai omis de vous parler de son talent. Talent qui s'incarne dans un chiffre assez stratosphérique. 75 millions d'albums vendus. Il fait tout simplement partie, Stéphane, des artistes les plus vendus de tous les temps devant votre ami Nana Mouskouri. Son décès brutal, puisqu'il est assassiné à Las Vegas le 7 septembre 1996, un meurtre d'ailleurs jamais élucidé, ajoutera encore à sa légende. Une légende liée au caractère militant de Tupac, que sa mère surnomma d'ailleurs ainsi, en hommage à un révolutionnaire péruvien tué par les Espagnols. Car chez les Crooks, on est hyper politisé. Papa et maman militent chez les Black Panthers et toute l'inspiration de Tupac vient de là, la volonté de mettre en lumière les injustices infligées aux Afro-Américains aux États-Unis. Les Saint devient donc Tupac, avant ensuite d'adopter le nom de famille du père de sa sœur Sekia, un autre Black Panther qui s'appelait Mutulu Shakur.
Je ne comprends rien de quoi vous dites.
Faites comme moi, faites semblant, Stéphane. Essayez d'être un peu street. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rap a sauvé, temporairement en tout cas, ce jeune homme à fleur de peau. Un jeune homme à la gâchette facile, c'est vrai, aux fréquentations peu recommandables, mais avec un cœur sensible et une plume alerte. Un dingue de poésie qui, un jour, dans un parc public, rencontre la femme qui va changer sa vie en acceptant de devenir sa manager. Leila Steinberg ne connaît personne dans l'industrie musicale, pourtant, elle va décrocher à ce gamin de 17 ans à peine un rendez-vous avec un producteur en vue de l'époque. À partir de là, Tupac enchaînera album à succès et séjour en prison. Vous connaissez tous ses tubes, Stéphane ?
If you hear me, keep your head up, sans oublier l'incontournable, Strictly for my niggas.
Strictly for my niggas, effectivement, c'est le meilleur. Alors, votre street credibility vient de faire un bond, Stéphane. On mentionnera aussi, évidemment, car on l'a tous écouté au volant d'une 307 décapotable sur une route de la région PACA, en s'imaginant être à Venice Beach, California Love. On est en 96, son plus grand tube. Hélas, il meurt assassiné quelques mois plus tard. Une vie de gangsta jusqu'au bout, puisqu'après avoir été incinéré, Tupac sera fumé par ses amis, les membres du groupe Outlaws, sous la forme d'un gros pétard où de la marijuana avait été mélangée à ses cendres.
C'est beau, non ?
C'est magnifique. Magnifique. Belle idée, ouais, belle de idée. Nature à égayer un moment généralement pas très fun qu'est la crémation. Je sais par son notaire qu'Olivier Pouls a demandé à être fumé lui aussi, mais au charbon de bois, les proches pourront ensuite le déguster avec une sauce béarnaise. Ainsi, il restera toujours un peu de lui en nous. Avant de finir en spliff à tout juste 25 ans, Tupac a donc vécu une vie assez mouvementée, sentimentalement aussi. Des top modèles par ici, Whitney Houston par là, quelques gangbangs pour garder la forme, c'est bien normal. Et au milieu de tout ça, Madonna. Leur idylle est facile à dater. 31 mars 94, en effet, l'attitude de Madonna dans un talk show choque l'Amérique. Déclaration fantasque, pitrerie, emploi du juron fuck à 14 reprises. Les fans sont choqués. Plusieurs années plus tard, dans un autre talk show, elle explique « Eh bien, à l'époque, je sortais avec Tupac et le truc, c'est qu'il m'a mis en colère contre la vie en général. Donc, quand je suis allé à l'émission, je me sentais très gangsta. » Et voilà, c'est pas elle qui avait pété les plombs, c'est la faute à Jean-Noël Couillard. Et la période gangsta de Madonna a duré à peu près un an et demi jusqu'à ce que Tupac soit incarcéré. Et et qu'il lui adresse depuis sa cellule cette bouleversante missive. J'ai d'abord pensé à demander à Stéphane de nous la traduire, puis je me suis souvenu que l'anglais n'était pas son fort.
Ce titre fait référence directement à une chanson, c'est Good Morning Hurtet. C'est Bonjour...
mal de tête.
Douleur.
Non, douleur. Ah oui, oui, pardon. Oui.
Donc c'est Bibi hein, qui va s'écoller. Voici ce qu'écrivait Tupac à Madonna le 15 février 95, soit un an avant sa mort. Tout d'abord, je dois m'excuser parce que je n'ai pas été le genre d'ami que je sais être capable d'être. Pas parce que je suis méchant ou parce que tu n'en valais pas la peine, mais les effets du racisme rendent difficile pour un jeune homme noir de montrer son affection envers une femme blanche plus âgée. On peut jouer à classe pas classe. Hein. Peux-tu le comprendre ? Pour toi, être vu avec un homme noir n'aurait d'aucune manière compromis ta carrière. Ça aurait même pu te montrer plus ouverte et excitante. Mais pour moi, j'avais l'impression que je laissais tomber la moitié des gens qui ont fait de moi ce que je suis. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Au fait, j'étais à fond sur toi, mais j'ai eu peur. Je ne voulais pas être un autre jouet ou juste un autre gars. Et puis, je suis tombé sur une interview où tu disais que tu en avais marre de réhabiliter tous les rappeurs et joueurs de basket. Ces mots m'ont blessé, car j'ignorais totalement que tu avais été avec d'autres rappeurs. Mais tu as été tellement gentil, même au beau milieu de ma folie. Je t'offre à nouveau mon amitié, cette fois bien plus forte et ciblée. Si tu es encore intéressé, j'aimerais en discuter avec toi, mais certaines phrases ne pouvaient attendre. Je me sentais obligé de t'écrire, juste au cas où quelque chose devait arriver. Ton couillard. Pardon, toujours Tupac. Cette lettre, nous n'aurions jamais dû la dire, car Madonna ne l'a jamais publiée. C'est son ex-amie et assistante, Darlene Lutz, probablement la première femme d'Alex Lutz, je n'ai pas enquêté si loin, qui lui a odieusement shippé, puis mise aux enchères en 2017. Mise à prix de la lettre, 100 000 $.
Ah ouais.
Heureusement, mais non, il y a une justice, personne ne s'est porté acquéreur à ce prix. Il faut dire qu'un scan de cette lettre est disponible sur Internet, une bonne imprimante couleur et le tour est joué. Pour ma part, ému par cette histoire de lettre d'amour qui ressort des années après, je lance un appel solennel à une certaine Fanny. Fanny, tu es probablement belge, probablement ménopausée aussi aujourd'hui, et si mes sources sont bonnes, et elles le sont souvent, on l'a vu avec Constance, tu dois être en possession d'un émouvant poème qu'avait composé pour toi un garçon joufflu, au lacet constamment défait, un garçon qui t'aimait presque aussi fort que les moules Roquefort. Il s'appelait Olivier Pouls, et son poème était intitulé « Les mots ne viennent pas facilement ». Les mots ne viennent pas facilement, comment pourrais-je te faire comprendre que je t'aime ? Les mots ne viennent pas facilement à moi, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour te dire que je t'aime. Olivier, 40 ans plus tard, vous assumez cet odieux plagiat, vous avez un message pour cette Fanny peut-être ?
Je me dis que peut-être Fer David s'est inspiré de mon poème pour écrire sa chanson.
Ah, vous attendez dans le verset ? Ah, c'est beau, vous en sortez bien, effectivement. Stéphane, maintenant que vous connaissez Tupac ?
Maintenant, grâce à vous,
dans
je connais
dîners,
Tupac. Bah écoutez, oui, mais ça ne sert plus, il est mort. Alors, merci Mathieu, en tout cas pour votre récit, c'était vrai à 99%,
oui.
Il y a donc 1% de faux.
Oui, sauf quand j'ai dit que vous tiriez sur le cordon du concierge, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas...
Rien du tout.
Rien du tout,
rien c'était, du tout. C'était
votre folle jeunesse gangsta.
Oui, voilà, exactement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de se dire au revoir.
Pas encore, Stéphane, parce que vous voyez, Olivier et David sont venus pour nous écouter, mais ils sont venus aussi pour,
c'était
pour
ça,
livrer une performance.
Je voulais dire, il est l'heure de dire au revoir à nos personnages historiques du jour.
Bien sûr, mais comme vous me le disiez hors antenne, Stéphane, le romantisme, ça va 5 minutes. Découvrons plutôt ce que l'histoire peut nous apprendre du présent et de notre quotidien avec nos farfouilleurs de l'histoire. À commencer par Olivier Pouls qui est venu aujourd'hui avec quelques asperges.
Pleine saison, les vertes, les blanches, je vous raconterai d'où elles viennent, depuis quand on en mange, et puis surtout, depuis quand et comment on les cultive. Et puis je vous ferai une petite sauce, tiens, ça c'est le cadeau bonus du jour.
Très bien, le mot de la fin reviendra à Stéphane. Stéphane, aujourd'hui, l'expression potin.
Oui, on a surpris Mathieu Noël et Sonia Mabrouk très proches à coup de la photocopieuse. C'est faux, mais ça aurait pu faire un très bon potin. Mais d'où vient ce mot, le potin?
Félix.
Oui. Rien à voir avec Félix.
Et tout de suite, les amis, poursuivons cette émission qui devrait être finie selon Stéphane si on l'écoute. Hein, Stéphane a déjà dit au revoir.
Il a fait parler son cœur.
On ne pourra pas. Je reste là pour écouter David Castello-Lopez, les origines aujourd'hui, aux origines des méthodes pour ne pas perdre ses cheveux. J'imagine que c'est très ancien.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui regarde le passé mais qui sait aussi affronter le présent courageusement. En la personne de David Castello-Lopez. Chaque jour, David, vous nous entraînez aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui pourrait m'être utile.
Tout à fait. Quand j'étais au lycée, moi j'avais une amie qui s'appelait Louise et qui un jour à la récré a voulu prédire
si les garçons de la classe allaient perdre leurs cheveux ou pas. Et quand elle est arrivée à moi, elle a soulevé mes cheveux sur le front et elle a dit toi, tu vas perdre tes cheveux. Et c'était cruel parce que j'avais 16 ans et à partir de ce moment-là, j'ai vécu dans la peur. Et malheureusement, peu de temps après, la prophétie de Louise a commencé doucement à se réaliser. Mes golfs se sont creusés et petit à petit, la densité générale de ma chevelure s'est amenuisée. Je sais aujourd'hui que j'en ai plus pour longtemps et je vois que certaines personnes sur Internet le remarquent et en particulier les gens déjà chauves hein, dont l'œil est particulièrement exercé.
C'est les pires ceux-là.
Voilà, et qui voient en moi un frère en devenir. C'est d'une grande tristesse. À 35 ans, 2/3 des hommes disent qu'ils perdent au moins un peu leurs cheveux. À 50 ans, c'est 85%. Alors évidemment, depuis la nuit des temps, les hommes cherchent des méthodes pour ne plus perdre leurs cheveux. Les plus anciennes, elles ont plusieurs milliers d'années et ce sont en gros toujours des variations autour de « je mélange de la boue avec des orties, des graines de melon et de la graisse de chat et je frictionne mon cuir chevelu avec ». Mais évidemment, ça ne marche jamais, jamais, jamais. Et en gros, de la nuit des temps jusque dans les années 50-60, il n'y avait qu'une seule méthode qui permettait de ne pas perdre ses cheveux, et qui d'ailleurs permet encore de ne pas perdre ses cheveux aujourd'hui, c'est d'être castré avant la puberté. Oui. Voilà. La castration avant la puberté, c'est une méthode qui reste assez peu utilisée, de ce point de vue-là, quand même, parce qu'on considère que le prix à payer est un petit peu trop élevé. Voilà. Et puis, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, il y a trois méthodes qui sont apparues et qui, elles, fonctionne. La première, c'est la molécule C9H15N5O qui était utilisée à partir des années 50 pour traiter l'hypertension artérielle et on s'est rendu compte que par ailleurs elle avait le pouvoir, dans certains cas, de faire repousser les cheveux et c'est devenu le médicament connu de tous les gens qui perdent leurs cheveux, le minoxidil. Moi, j'en mets tous les jours de ma vie depuis janvier 2003.
Oui. C'est vrai ?
Ça ne marche pas pour tout le monde mais ça marche un petit peu.
Mais le 5%, parce que le 2%...
Le 2%, laissez tomber, ça sert à rien.
Très 5%.
Pareil, dans les années 80, on s'est rendu compte qu'une autre molécule dont on servait pour guérir les gens qui avaient une trop grosse prostate avait aussi pour effet de leur faire repousser les cheveux et c'est devenu le Propecia. Le Propecia qui a pris un petit coup dans l'aile il y a 10 ans quand il a été révélé qu'il pouvait provoquer des pertes de désir sexuel irréversibles.
Carrément.
Ce qui est bête quand même parce que l'idée de faire repousser ses cheveux, c'est de provoquer le désir sexuel chez l'autre. Mais si pour ça, il faut qu'on perde le nôtre au passage, ça ne sert plus à rien. Et la troisième méthode qui marche, elle, à tous les coups, c'est bien sûr la greffe de cheveux. Ah. Alors, le monsieur qui est le premier à appliquer cette méthode à une certaine échelle, c'est un médecin américain, Norman Ehrenreich, dans les années 50. Et ce monsieur, il a remarqué que si on prenait des cheveux à un endroit où ils ne tomberont jamais, c'est-à-dire à l'arrière de la tête, et qu'on les déplace à un autre endroit, eh bien, ces cheveux conservent leur vigueur pour toujours. Bon, alors, au début, les greffes de cheveux, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était vraiment nul.
Ça faisait champ de poireaux.
Voilà, ça faisait une sorte de petit potager. Et surtout, un potager qu'on remarquait à 3 km. C'est-à-dire, on voyait très bien. Et personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi. Parce que c'était vraiment mieux qu'une absence de potager. C'était vraiment, il valait mieux ne pas avoir de cheveux qu'avoir ça. Et puis, dans les années 90, on a découvert la technique dite de l'extraction d'unités folliculaires. Les unités folliculaires, c'est des groupes de plusieurs cheveux qui poussent ensemble. Et si on les prend et qu'on les déplace, ils font des merveilles à l'endroit où on les met. Et non seulement il n'y a pas de cicatrices visibles à l'endroit où vous les enlevez, mais ça se fond super bien dans les zones d'accueil, comme on les appelle. Évidemment, ça coûte cher, hein, jusqu'à 15 000 euros. Mais plus que le prix, je pense que moi, la seule chose qui me fait hésiter, c'est que pour faire ce genre de greffe, il est très conseillé de se raser la tête parce que ça facilite beaucoup le travail des chirurgiens.
Toute la tête, non, la zone.
Ah non, toute la tête, pour bien prélever, pour bien voir où on va le mettre. La plupart des gens qui font ça se rasent la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va remarquer, si je le fais, que je me suis fait réimplanter des cheveux immédiatement. Et c'est pas toujours facile à assumer, surtout pour des gens qui montrent leur visage un petit peu plus que les autres, comme c'est notre cas.
On embrasse Marc-Olivier Fogiel, qui nous écoute et qui a été un pionnier, n'est-ce pas, de toutes ces techniques.
On est nombreux à voir.
Mais vous savez, la deuxième période, vous, c'est la bonne méthode.
C'est la bonne méthode.
Vous avez, maintenant que le cheveu a repoussé...
Pour faire pousser les asperges, mais pas besoin de minoxidil pour ça.
Pas besoin, juste besoin d'Olivier Pouls. D'où viennent les asperges?
Ben oui, les asperges, c'est un incontournable de la table, et ça fait depuis très longtemps qu'on en mange, mais pas sous la forme qu'on les connaît aujourd'hui.
C'est-à-dire...
Parce que pendant très longtemps, on a mangé ce qu'on appelle des asperges sauvages, puisqu'à l'origine, c'est un légume sauvage qu'on trouvait autour du bassin méditerranéen, et que les Grecs, les Romains, les Égyptiens cueillaient et mangeaient. On trouve d'ailleurs encore un petit peu de ces asperges sauvages, qui sont d'ailleurs... beaucoup plus amer, c'est pas très bon. À ne pas confondre avec l'asperge des bois, qui est une fine petite tige qui, elle, ressemble à du blé et qu'on va trouver au printemps dans les bois. Ça, c'est absolument délicieux. Mais ce n'est pas tout à fait de la même famille. Mais l'asperge...
Vous pouvez demander à Stéphane de ne pas me regarder. Chaque fois que le mot « tige » est prononcé dans cette émission, n'importe quel sujet, s'il peut éviter de me lancer un regard.
Parce que
si les gens pouvaient nous voir, je sais qu'on fait de la radio, mais Stéphane, vous tournez vers moi. Comme ça, t'as vu, il a dit « tige ». On s'en rappelle tellement de CE2, c'est vrai que c'est dur par moment.
C'est pas vrai.
C'est vrai, monsieur l'instituteur.
Qu'est-ce que ce serait si j'avais en plus apporter des asperges.
Oui, là, on aurait joué avec les tiges, ça aurait dérapé. Alors racontez-nous.
Le vrai moment où l'asperge va devenir très populaire en France, c'est la Renaissance, et elle s'invite à la table des rois. Pas forcément, non, mais que ce soit Henri III, Louis XIV en était
très amateur.
Et d'ailleurs, Louis XIV est le premier, d'ailleurs, qui va demander à ce qu'on les cultive. Il va demander à son jardinier, la Catini, de planter des asperges à Versailles, entre autres, et on va commencer la culture des asperges. Mais cette culture, on va tâtonner un petit peu. Et c'est véritablement à partir du 19e siècle, et notamment grâce à des plans hollandais, qu'on va véritablement avoir les asperges telles qu'on les connaît. C'est-à-dire des grosses asperges régulières, des vertes ou des blanches. Alors, connaissez-vous la différence ? Et savez-vous pourquoi il y a des vertes et des blanches ?
Elles n'ont pas le même goût.
Elles n'ont pas tout à fait le même goût. La verte a un côté un petit peu plus végétal, la blanche un peu plus ronde. Mais pourquoi il y a des vertes et des blanches ?
Moi, je ne sais pas.
On n'a plus rien.
Alors, ce sont deux techniques de culture différentes. En réalité, ça peut être la même variété.
Ah, qui devient
tout
blanche ou verte ?
Elle devient verte, pourquoi ? Parce qu'elle sort de terre. L'asperge blanche est une asperge que l'on plante et que l'on bute. C'est-à-dire qu'on va ramener de la terre sur elle au fur et à mesure pour éviter qu'elle soit en contact avec la lumière. Ah. Parce que si elle est en contact avec la lumière, elle fait de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vert. Alors, donc l'asperge verte, elle sort de terre. L'asperge blanche, elle reste dedans.
Pourquoi on n'a absolument pas envie qu'elle soit verte ?
Au début, l'asperge blanche, on l'a un petit peu découverte, entre guillemets, mais par hasard, parce qu'on a voulu protéger des asperges, des différentes maladies, notamment des petits pucerons. Et donc, pour éviter qu'elles ne soient attaquées, on la recouvrait de terre. Et on s'est rendu compte que forcément, elle ne rentrait pas en contact avec la lumière. Et donc, elle restait blanche. Et c'est vrai que l'asperge blanche, c'est une asperge qui a un goût un peu différent, qu'il faut éplucher d'ailleurs, puisqu'elle est, elle est plus fibreuse.
Elle est
alors
plus flandreuse aussi.
L'asperge verte ne doit pratiquement pas être épluchée. Et c'est en région parisienne d'ailleurs, à Argenteuil, qu'on va véritablement mettre au point la culture de l'asperge à partir des années 1800. Argenteuil qui sera d'ailleurs un des très très gros pôles de production de l'asperge en France. Mmh. Et puis évidemment toute la région parisienne. Et puis le galopement urbain va faire qu'on va repousser petit à petit ces cultures, notamment vers le Val-de-Loire, et qu'on va descendre dans d'autres régions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de régions dans lesquelles on produit de l'asperge, que ce soit en Alsace, que ce soit dans le Blayais, que ce soit dans les Landes, etc. Donc voilà, les deux grandes familles d'asperges telles qu'on les connaît sont là, elles sont surnotables, et donc maintenant il ne reste plus qu'à les préparer. Alors tout d'abord, il faut les cuire, les asperges. Petite astuce, si vous avez des asperges vertes, donc pas besoin de les éplucher, pour les cuire, pas de grand volume d'eau, simplement un peu de matière grasse, de l'huile d'olive, un tout petit fond d'eau, et on les fait gentiment rôtir doucement dans une poêle.
Il faut qu'elle soit croustillante, il ne faut pas que l'asperge soit molle.
L'asperge verte doit rester un peu al dente, alors que l'asperge blanche, elle peut être un peu plus molle, entre guillemets. Il ne faut pas non plus qu'elle soit toute ramollie. Et alors, il y a une astuce, si vous les cuisez à l'eau, les blanches, ce qu'on peut faire, c'est que vous les mettez en botte dans un grand volume d'eau, et quand vous voyez qu'elles commencent à descendre vers le fond de la casserole, tac, ça veut dire qu'elles sont cuites. Il n'y a plus qu'à les sortir. Donc, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Et puis, en ce qui concerne la sauce, moi, celle que j'aime, c'est la sauce maltaise. Alors, qu'est-ce que c'est que la sauce maltaise ? C'est l'idée d'une sauce mousseline dans laquelle on rajoute un trait de jus d'orange. Donc, on va démarrer comme une sauce mousseline classique, c'est-à-dire deux jaunes d'œufs, du beurre froid. On va mélanger tout ça sur feu très doux, de manière à créer une espèce de sauce qui va avoir un petit peu de tenue. Dès que ça commence à prendre un peu de consistance, on rajoute un jus d'orange. On peut rajouter un tout petit peu de gingembre aussi et un peu de zeste d'orange. Et ça, en accompagnement des asperges, c'est absolument magnifique.
Formidable.
Merci Olivier Pouls.
On retrouve sa recette sur le site d'Europe1.fr.
Et Stéphane, vous êtes là pour nous guider parmi les mots complexes parfois de notre belle langue française. C'est le mot de la fin, l'histoire d'un mot aujourd'hui,
potin. Pourquoi quand on se passionne pour les cancans, les derniers scoops sur les stars ou les rumeurs sur les gens de la rédaction, par exemple d'Europe 1, on dit qu'on aime les potins ? Oui, c'est vrai, d'où vient ce mot potin ?
D'où vient le mot potin ? On dit faire du potin aussi, colporter les derniers potins, ça vaut pour les personnalités connues, mais aussi pour les collègues, généralement, on les partage à la machine à café, Stéphane.
D'ailleurs, vous n'êtes pas le dernier pour les raconter, Mathieu. Vos derniers potins sur Clémentine m'ont laissé sans voix. Enfin bref, c'est une autre histoire. Partons pour la Normandie du XVIIe siècle. L'hiver, il fait froid, et vous l'imaginez bien, il n'y a pas grand-chose à la télé, d'autant que la télé n'existe pas encore. Résultat, les femmes des villages se rassemblent chez l'une ou l'autre pour se raconter les derniers commérages. Elles apportent des petits pots en terre cuite contenant des braises. Ces dames se mettent en cercle, disposent les pots à leurs pieds. Il fait meilleur et on se raconte les nouvelles. Ces petits pots étaient appelés les potines. Une expression va naître également à cette période, potiner. Une formule qu'on n'utilise plus du tout de nos jours, à part chez moi et chez quelques-uns de mes amis. En 1878, dans le dictionnaire du jargon parisien de Lucien Rigaud, entre enfin le mot « potin ». La définition « bavardage ou un peu de vérité est mêlée à beaucoup de mensonges ». Terminons sur cette citation d'Alfred Capu, journaliste au Figaro, début du XXe siècle. « Méprisez la calomnie, prenez garde au potin, pardonnez une insulte, mais jamais une impolitesse. »
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était bon, il était chaud, il sentait bon le sable chaud. Il était consacré aux amours épistolaires, parfois émouvants, parfois déchirants, parfois excitants aussi. Et ça vous a donné envie d'entreprendre une correspondance avec quelqu'un, Stéphane, cette émission ?
Oui, je pense que je vais écrire à Booba et je vais écrire à tous les rappeurs maintenant, au cas où ils m'envoient des lettres-réponses que je pourrais vendre 100 000 euros.
Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane ?
Demain, il voit tout en noir. On réunit trois personnages qui ont mis du noir dans leur vie, pour notre plus grand plaisir, faut bien le dire. Oui, oui. La dame en noir, Barbara. Et puis le peintre qui a passé les 100 ans, Pierre Soulages, et a fait du noir une sorte de couleur lumineuse.
Et eux aussi, ils voient tout en noir. Vous les avez reconnus, Stéphane ?
La famille Adams. Oh, j'ai déjà peur.
Je vous comprends, ils sont flippants. Alors à demain, Stéphane, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.